Vous écoutez On lit pour vous.
Le Québec accessible n'a plus de secret pour Dominique Mercier. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad numéro 163, été 2024. Dominique Mercier a pointé sur une carte tous les endroits qu'il a visités au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Alors oui, Dominique est ce qu'il convient d'appeler un aventurier dynamique. Il aime découvrir, il aime bouger, il aime expérimenter et il aime passer du temps en famille au chalet. Depuis son accident, sa façon de penser a été de « changer les pourquoi en comment ». Citation « Je m'amuse à essayer de trouver comment faire ». Fin de citation. Il suffit de voir le nombre de photos qu'il m'a envoyées pour illustrer les différentes activités qu'il a faites en été au Québec. C'est simple, il lui a fallu utiliser un logiciel de transfert. Je n'avais que l'embarras du choix. Dahu, Joëlette, kayak adapté, planche à pagaie adaptée, ULM, aéronef ultra-léger motorisé, sortie au chalet, feu de camp, vélo à main, karting, randonnée, course partagée. Une incroyable diversité, un beau palmarès et autant de coups de cœur pour cet inlassable touche-à-tout, également conseiller père bénévole à Mémo Québec. Se faire aider pour aller plus loin. Dominique fêtera son paranniversaire en octobre, ses 20 ans en fauteuil. Et avec le temps, il a appris qu'il ne fallait pas hésiter à demander de l'aide. Au début, j'étais jeune et orgueilleux. Je voulais tout faire seule. Je voulais me démontrer à moi-même que j'étais capable. Avec l'âge, la maturité et la sagesse, je ne me suis pas gênée à demander de l'aide, explique-t-il. Une aide qui l'a amené à joindre l'utile à l'agréable. C'est ainsi qu'il a découvert l'an passé la Joëlette. Elle lui a permis de socialiser avec les personnes qui le poussent et le tirent, tout en surveillant le chemin sur un terrain plus rocailleux. Je pensais que je ne faisais rien et que je restais assis. Comme je suis une personne très active, je me disais que ce n'était pas pour moi. Je n'avais pas osé essayer. En fait, c'est bon pour le côté social puisqu'il y a environ 4 personnes autour de moi et cela m'a permis de faire l'ascension du mont Harford en prenant un sentier de randonnée en montagne. Je ne l'avais jamais fait. En plus, j'ai eu la chance de partager ce challenge avec mes enfants, raconte-t-il, heureux. Dominique est un amoureux du Québec. Il aime partir à la découverte des régions et voir ce qu'il est possible d'y faire. Il utilise toutes sortes d'hébergements, des hôtels, des motels, des mégapodes adaptés dans des campings accessibles, des chalets adaptés. J'ai fait presque tous les chalets au Québec, compte-t-il, un peu moins en Abitibi et sur la côte nord. Cette année, sa région, la Montérégie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la région que Dominique connaît le moins est la sienne. Il a décidé, cette année, budget un peu plus serré oblige, de partir à la découverte de la Montérégie. Quand nous nous sommes parlé, il était d'ailleurs en pleine préparation de ses itinéraires qui allaient l'assurer cette fois de rentrer dormir chez lui chaque soir. J'utilise beaucoup les sites de Kéroul et le Québec pour tous. Ce sont de bonnes sources d'informations pour les activités extérieures. Je peux faire des recherches en ligne par région, explique Dominique, qui insiste sur l'importance de planifier ses sorties à l'avance et de ne pas hésiter à téléphoner pour s'assurer de l'accessibilité du lieu et des commodités avant de se rendre sur place. Étant un gars d'extérieur, comme il se décrit, et adorant l'été, notre conseiller père bénévole part, dès qu'il le peut, à la découverte des vignobles, à la cueillette des pommes, à la découverte des paysages et sur le bord de l'eau. Il passera, cet été encore, de nombreuses heures en vélo à main sur les pistes cyclables. Il prévoit d'aller jusqu'à Granby, soit 50 km, et a récemment ajouté l'assistance électrique à son vélo pour lui permettre de parcourir de plus grandes distances. Il y a 2 ans, je suis allée de Saint-Hubert à Saint-Jean. C'est 70 km aller-retour. Avec un moteur électrique, je fais toujours un effort, mais je peux en faire plus longtemps. En inspirer d'autres. Dominique aime partager ses découvertes avec les autres, à la fois dans son rôle de conseiller père bénévole à Mémo Québec, mais aussi à travers Internet et les réseaux sociaux. Montrer ce qui est possible pour en inspirer d'autres lui donne une motivation supplémentaire lors de ses sorties. « C'est du bien-être pour moi de me faire plaisir et de faire découvrir aux autres », explique-t-il. Le meilleur souvenir d'été de Dominique, l'ascension du mont Orford en famille. Dominique aime les activités de groupe et tout particulièrement les activités avec les gens qu'il aime en famille. Il se considère chanceux de pouvoir le faire, d'être entouré d'amis, de personnes qu'il aime, d'autres personnes en situation de handicap. Il voit l'été aussi comme une occasion de briser l'isolement, car la belle saison facilite les sorties. Dominique a vécu de belles sensations l'an passé à Orford. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance aux gens qui nous entourent, car nous sommes une équipe. Ça nous a pris 1h30 pour monter et 40 minutes pour descendre. J'étais déjà montée au Mont Mégantic en voiture, au Mont Tremblant en téléphérique, mais là, c'était la première fois que je montais en roulant, la première fois en 20 ans, et j'étais accompagnée de mes enfants. À la fin, mon fils m'a dit « Je n'aurais jamais pensé monter une montagne avec mon père en fauteuil roulant », raconte fièrement Dominique. Le sportif compte tenter à nouveau l'ascension cette année, cette fois en Track Z, et toujours accompagné de ses enfants. Le défi Everest Orford est organisé par Fernand Courchesne en collaboration avec Altergo. La montée sera plus active, elle demandera un peu plus d'efforts physiques. Dominique est déjà prêt. C'était « Le Québec accessible n'a plus de secret pour Dominique Mercier », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad numéro 163, été 2024.
Les vidéos générées par IA mettent-elles notre attention à l'épreuve? Un texte de Virginie Soffer, paru le 30 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Chaque jour, des millions de personnes font défiler des vidéos sur TikTok, Instagram Reels ou Facebook Shorts. Certaines montrent des scènes banales du quotidien, d'autres des images spectaculaires ou presque impossibles à croire. Désormais, une part croissante de ces contenus est générée par intelligence artificielle, IA. Et plus les outils deviennent performants, plus il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Cette nouvelle réalité soulève une question encore peu étudiée. Le simple fait de croire qu'une vidéo pourrait être créée par IA modifie-t-il notre fonctionnement cognitif? Cet été, une équipe interdisciplinaire de l'Université de Montréal tentera d'y répondre grâce à une expérience menée à la Neurothèque. Le projet, dirigé par André Gaudreau, professeur au département d'histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels, et Marie-Odile Demé-Degoustine, associée de recherche au laboratoire Cinémédia, en collaboration avec Karim Gerbi, professeur au département de psychologie, combine neurosciences, psychologie cognitive et études cinématographiques pour analyser l'effet des contenus générés par IA sur l'attention et la charge cognitive. Pour cela, il peut compter sur une équipe intersectorielle rassemblant les auxiliaires de recherche Tanzia Mobarak et William Pedno-Pouliot, affiliés au laboratoire Cinémédia, ainsi que les auxiliaires de recherche du Laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles de l'Université de Montréal, Myriam Sarawi et Sina Esmaili. Grâce à des casques d'électroencéphalographie, à l'analyse des mouvements oculaires et à différentes mesures physiologiques, les chercheurs espèrent mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous regardons des vidéos dont l'authenticité devient incertaine. Plusieurs études laissent supposer que l'exposition répétée à des contenus très brefs et très stimulants pourrait nuire à l'attention soutenue. Changement de notre rapport aux images. Depuis environ 2 ans, il y a une prolifération énorme des outils qui permettent de créer facilement des vidéos et qu'on trouve sur les fils des réseaux sociaux, dit William Peddo-Pouliot. Et ces contenus deviennent de plus en plus photoréalistes, de plus en plus difficiles à détecter, même pour des experts. L'équipe s'est rapidement intéressée à l'effet psychologique de cette transformation. Avant l'arrivée massive de l'IA générative, les utilisateurs pouvaient généralement présumer qu'une vidéo publiée en ligne avait réellement été filmée. Aujourd'hui, cette certitude disparaît progressivement. Nous nous demandions si le fait d'avoir constamment à évaluer si ce qu'on regarde est vrai ou faux pouvait entraîner une surcharge cognitive supplémentaire, résume-t-il. Cette question s'ajoute à un autre phénomène déjà analysé, les effets des vidéos de format court sur l'attention. Plusieurs études laissent supposer que l'exposition répétée à des contenus très brefs et très stimulants pourrait nuire à l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité de maintenir sa concentration sur une longue période. Quand on regarde énormément de vidéos courtes, on s'habitue à des contenus qui captent l'attention très rapidement, explique Marie-Odile Demey de Goustine. Certaines recherches montrent qu'il devient plus difficile de maintenir son attention sur des contenus plus longs. Les chercheurs veulent maintenant savoir si l'incertitude liée à l'IA amplifie ce phénomène. Une expérience conçue autour de la croyance plutôt que de la détection. Contrairement à plusieurs études sur les hypertrucages ou la désinformation, l'équipe ne cherche pas principalement à savoir si les participants sont capables de reconnaître les vidéos générées par IA. Nous pensons que, dans un futur proche, cette distinction deviendra pratiquement impossible à faire visuellement, affirme Myriam Sarraoui. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est la charge cognitive liée au doute. L'expérience repose ainsi sur une manipulation des croyances des participants. 50 adultes neurotypiques sans troubles diagnostiqués visionneront des séries de vidéos très courtes, de 5 à 15 secondes, analogues à celles qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Les participants seront soumis à 4 conditions expérimentales. Dans les 3 premières, toutes les vidéos présentées seront authentiques, mais les consignes changeront. Dans l'une, les participants seront informés que toutes les vidéos sont réelles. Dans une autre, on leur dira qu'elles ont toutes été créées par IA. Dans la troisième, ils seront avertis qu'il pourrait y avoir un mélange de vidéos réelles et de vidéos produites par hypertrucage. Après chaque vidéo, ils devront rapidement donner leur appréciation du contenu en cliquant au choix sur le bouton « J'aime »,« Neutre » ou « Je n'aime pas ». Le but est de voir si la simple croyance qu'il pourrait y avoir de l'IA entraîne une mobilisation supplémentaire de ressources cognitives, précise Marie-Odile Demey de Goustine. La 4e condition servira de tâche de contrôle. Cette fois, les participants verront réellement un mélange de vidéos authentiques et de vidéos générées par IA et devront tenter de déterminer lesquelles sont le fait de l'intelligence artificielle. Les chercheurs pourront ainsi comparer les résultats selon la capacité réelle des participants à détecter la présence de l'IA. Mesurer l'activité du cerveau en temps réel. Pour observer les effets cognitifs du visionnement, l'équipe utilisera plusieurs outils de mesure simultanément. Le principal instrument est un casque d'électroencéphalographie. Cet appareil relève l'activité électrique du cerveau à partir d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Le cerveau communique constamment par des signaux électriques transmis entre les neurones, fait remarquer Myriam Sarraoui. Les électrodes nous permettent de capter cette activité très faible à la surface du cuir chevelu et de repérer certains processus cognitifs. Les chercheurs s'intéressent particulièrement aux variations de certaines zones cérébrales associées à l'attention, à l'effort mental et au traitement de l'information. Pendant l'expérience, de petits marqueurs numériques synchronisés avec les vidéos permettront d'associer précisément l'activité cérébrale au moment où les participants regardent certains contenus ou prennent une décision. Nous pourrons ainsi comparer ce qui se passe dans différentes conditions expérimentales, note Myriam Sarraoui. L'équipe utilisera également un système de suivi oculaire pour analyser les mouvements des yeux pendant le visionnement. Cette technologie permettra de savoir précisément quels éléments de l'image attirent l'attention des participants. Les chercheurs enregistreront aussi certaines réactions émotionnelles à l'aide d'un système de suivi facial capable de déceler des micro-expressions. Enfin, des capteurs mesureront la réponse électrodermale, soit les variations de conductivité de la peau liées à l'activation physiologique. Lorsqu'une personne ressent du stress, de l'incertitude ou certaines émotions, la transpiration microscopique de la peau augmente légèrement, modifiant sa conductivité électrique. Toutes ces données seront combinées afin de produire un tableau détaillé de la charge cognitive associée à chaque condition expérimentale. L'expérience repose sur une manipulation des croyances des participants. Construire une banque de vidéos crédible. L'un des principaux défis de l'équipe a été la sélection des vidéos utilisées dans l'expérience. Pour éviter des biais, elle avait besoin de contenu réaliste, mais suffisamment ambigu pour susciter le doute. Plus de 700 vidéos ont ainsi été retenues par des étudiantes et étudiants de premier cycle en cinéma et en jeux vidéo recrutés dans plusieurs cours. Pendant des semaines, ils ont analysé et téléchargé des contenus provenant de différentes plateformes sociales d'après des critères de sélection prédéterminés. Nous cherchions des vidéos qui restent sur une ligne très mince entre le plausible et l'incroyable, explique William Pennaud-Pouliot. Pas quelque chose de complètement impossible comme un homard fumant une cigarette au fond de l'océan, mais des situations qui amènent les gens à se demander si ce qu'ils voient pourrait être faux. L'équipe doit aussi constamment vérifier l'authenticité des vidéos sélectionnées. Le risque, c'est de nous piéger nous-mêmes, reconnaît Myriam Sarraoui. Si une vidéo d'IA se retrouve accidentellement dans un bloc censé contenir seulement des vidéos réelles, cela compromet l'expérience. Mesurer les effets sur l'attention soutenue. Avant et après le visionnement des vidéos, les participants réaliseront également une tâche cognitive pour mesurer l'attention soutenue. Pendant cet exercice, des images de villes et de montagnes apparaîtront rapidement à l'écran. Les participants devront appuyer sur un bouton lorsqu'ils verront une ville, mais ne rien faire lorsqu'il s'agira d'une montagne. Cette tâche nous permettra d'évaluer si le visionnement des vidéos influence ensuite les capacités attentionnelles, indique Myriam Sarraoui. Nous voulons voir si certaines conditions entraînent davantage de fatigue cognitive ou de difficultés attentionnelles. Les chercheurs espèrent aussi déterminer si les attitudes personnelles vis-à-vis de l'IA influencent les résultats. Des questionnaires mesureront notamment la perception des participants à l'égard des technologies génératives, leur habileté numérique et leur niveau de confiance quant au contenu médiatique. Un projet pilote pour comprendre les médias de demain. Les chercheurs présentent l'étude comme un projet pilote exploratoire. Les résultats ne permettront pas de tirer de conclusions définitives sur les effets cognitifs de l'IA générative, mais ils pourraient ouvrir la voie à de nouvelles recherches sur notre rapport aux images numériques. Le paysage médiatique change extrêmement vite, souligne Marie-Odile Demey de Goustine. Nous essayons surtout de comprendre comment cette nouvelle réalité transforme notre manière d'être attentif. Pour l'équipe, l'enjeu dépasse largement la simple technologie. À mesure que les faux contenus deviennent indiscernables des images réelles, c'est toute notre relation à la crédibilité, à la perception et à l'attention qui pourrait être transformée. Nous entrons dans un nouveau monde où le doute devient permanent, conclut William Pennaud-Pouliot. et ce doute pourrait avoir des effets très concrets sur notre cerveau et sur notre manière de naviguer dans l'espace numérique. C'était « Les vidéos générées par IA mettent-elles notre attention à l'épreuve? » un texte de Virginie Soffer, paru le 30 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Vous écoutez « Les vidéos générées par IA mettent-elles notre attention à l'épreuve? » un texte de Virginie Soffer, paru le 30 juin 2026 dans Université de Montréal Nouvelle.
Magnétothèque, la bibliothèque avec plus de 15 000 livres sonores. Un texte d'archives de Valérie R. Carbonneau, paru le 31 janvier 2009 dans Le Devoir et diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de la Magnétothèque. À noter que certaines informations qu'il contient peuvent ne plus être à jour. En cette période anticipée de vaches maigres, les organisations caritatives sentent bien la menace et craignent qu'on les place au rang des oubliettes. Néanmoins, bien qu'elles se sentent fragilisées, la demande n'en demeure pas moins importante. Certes, grâce au caractère unique de son concept, la magnétothèque se verra peut-être épargnée d'une telle mise en garde. Œuvrant auprès d'une clientèle atteinte de déficience visuelle, si on s'en tient à sa structure actuelle, la magnétothèque est le seul centre de la sorte au Québec. Ainsi, tout comme son équivalent canadien, l'Institut national canadien des aveugles, INCA, elle a pour mission de permettre l'accessibilité à l'imprimé sous forme sonore à tous ses membres. Nous sommes le plus grand producteur de livres sonores adaptés dans toute la francophonie, mentionne Marjorie Théodore, directrice générale de la Magnétothèque. Depuis 1976, l'établissement enregistre plus de 700 livres par an, tout en veillant au respect des diverses normes d'acquisition établies préalablement par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce nombre s'ajoutant année après année à la collection de l'établissement, la Magnétothèque met à la disposition des utilisateurs près de 10 000 livres sonores adaptés à même la Bibliothèque nationale. Quelque 80% de l'information qu'on reçoit vient de la vue, par exemple par les panneaux d'affichage, la télévision, ou bien les journaux et les revues, alors que seulement 20% nous provient de l'audition. L'accès au savoir et à la culture, pour ces gens qui ne peuvent tirer profit autrement de l'imprimé, est une cause qui me tient vraiment à cœur. Personnellement, si je perdais l'usage de la vue, ce serait grave, admet la directrice générale. À la question de savoir si elle avait un témoignage à partager, Marjorie Théodore évoque Marie-Jeanne Bérubé, membre exceptionnel et toujours actif de la Magnétothèque. Cette dernière a perdu la vue à l'âge de 25 ans, ce qui ne l'a pas empêchée de compléter un baccalauréat grâce à la Magnétothèque. Grande adepte de lecture dans ses loisirs, elle a également siégé au conseil d'administration à titre de présidente pendant quelques années. Les fondements et l'évolution. Lorsqu'il était à la maîtrise à l'Université de Montréal, André Hamel a perdu la vue. Fervent lecteur, il ne pouvait donc plus se livrer à sa passion pour la littérature. Il a alors entendu parler de Recording for the Blind, un organisme états-unien où il s'est rendu pour en étudier la structure. Il est ensuite revenu au Québec, pleinement inspiré pour fonder la Magnétothèque à l'image de cet organisme. Ainsi, au cours des premières années de son existence, soit de 1976 à 1985, la Magnétothèque s'est consacrée notamment aux étudiants handicapés de la vue, leur offrant ses services pour l'enregistrement de documents pédagogiques. À l'époque, l'organisme était financé en grande partie par le ministère de l'Éducation du Québec, précise Marjorie Théodore. Dès 1984, la Magnétothèque est reconnue par l'État québécois comme un organisme de services offerts aux personnes handicapées de la vue. En 1986, l'organisme connaît un changement de parcours. Cette année-là, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine, anciennement le ministère des Affaires Culturelles, a demandé à la Magnétothèque d'enregistrer des livres de loisirs. Depuis, la Magnétothèque doit suivre la politique de développement des bibliothèques publiques. Par la suite, en collaboration avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, en 2001, la Magnétothèque a mis au point le service québécois du livre adapté, SQLA, où elle joue un rôle de diffuseur. En 2005, l'organisme a cédé ses activités de diffusion à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et s'oriente dorénavant comme un centre de production de livres sonores. Avant 2005, l'usager qui voulait un livre appelait directement à la Magnétothèque, alors que, depuis 2005, il doit être abonné à BANQ, laquelle héberge la collection de la Magnétothèque, explique-t-elle. Depuis, les services ont pris beaucoup d'ampleur. La Magnétothèque permet dorénavant l'enregistrement de livres et de documents sonores, et on y vend également des livres sonores préenregistrés, en collaboration avec les éditions Stankey. Elle a même amorcé un projet de radio personnalisé. La radio de la Magnétothèque diffuse une programmation quotidienne variée au moyen du câble, d'Internet ou de la télévision numérique. La radio fait la lecture intégrale d'articles de quotidiens francophones. Elle diffuse une programmation de 6 heures en boucle, ajoute Marjorie Théodore. Elle permet à plus de 450 000 auditeurs d'écouter des articles de journaux et de revues francophones, ainsi que des éditoriaux, et ce, à toute heure du jour. En somme, la Magnétothèque veille à la mise en place d'un service à la clientèle hautement qualifiée pour rejoindre plus de 8 000 usagers abonnés. Bien qu'elle lance elle-même ses campagnes de souscription, elle vit aujourd'hui en grande partie grâce à l'appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine. Elle regroupe plus de 400 bénévoles, lesquels sont invités à prêter main forte à plusieurs niveaux, par exemple au cours des différentes activités de financement, des marathons de lecture, en plus de siéger au conseil d'administration, alors que 2 sièges sont réservés aux membres non-voyants. Le site internet a également été conçu de telle sorte que les visiteurs aux prises avec une déficience visuelle jouissent d'un outil virtuel accessible. La Magnétothèque fait partie de l'Union francophone des aveugles et est très présente au sein de la francophonie, ajoute Marjorie Théodore. L'organisme prête également son expérience et son expertise et participe activement à des projets de développement durable au niveau international, notamment la mise sur pied d'une bibliothèque sonore en Algérie. C'était Magnétothèque, la bibliothèque avec plus de 15 000 livres sonores. Un texte d'archives de Valérie R. Carbonneau, paru le 31 janvier 2009 dans Le Devoir, est présenté dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de la Magnétothèque.